Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Institut indonésien des sciences ou LIPI et British Council Indonesia établissent un partenariat pour soutenir la culture de recherche. Des artistes de six pays effectuent un spectacle théâtral, Mahabharata partie 3, guerre Kurukshetra. L'achèvement technique du mémorandum d'accord entre l'Indonésie et la Malaisie. Bandung Petit Magasin sera ouvert à Kuala Lumpur. Selon le président, marque nationale n'est pas seulement un slogan. L'Indonésie se félicite les vacances d'hiver à travers le Forum touristique international russe. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le directeur adjoint du British Council en Indonésie, Ian Robinson, en marge du 48e concours de travail scientifique d'Asian à l'Institut indonésien des sciences ou LIPI à Jakarta, a déclaré que le soutien de LIPI pour le développement de la culture de la recherche en Indonésie était très encourageant. Il a dit que LIPI a examiné la possibilité comme le potentiel pour les jeunes chercheurs d'être des chercheurs qui se développent et peuvent rivaliser au monde international. Il est un grand plaisir pour moi de voir le partenariat du British Council avec l'Institut indonésien des sciences ou LIPI pour soutenir les initiatives étonnantes des jeunes chercheurs et l'Indonésie a vu cela comme un besoin d'être en mesure de rivaliser dans une économie mondiale pour améliorer les compétences des travailleurs, y compris les chercheurs qui peuvent concurrencer efficacement et collaborer au niveau international. Par ailleurs, Ian Robinson a également déclaré que le partenariat bilatéral du LIPI et le British Council Indonesia dans le soutien du développement de la recherche culturelle avait fait pendant 2 ans. Il a dit que la jeune génération avait un potentiel de développer la science et la technologie pour leur pays. Les artistes de 6 pays effectuent un spectacle théâtral baptisé Mahabharata partie 3, la guerre Kurukshetra, le 28 septembre et 29 à Taman Ismail Marzuki, Jakarta, réalisé par un directeur japonais Hiroshi Koiki. Les artistes du Japon, des Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et la Cambodge sont performances en Indonésie. Le spectacle théâtral est organisé par Hiroshi Koiki Bridge Project en collaboration avec la Fondation du Japon, le Conseil des Arts de Jakarta et Théâtre Garasi. Le directeur général de la Fondation du Japon en Indonésie, Sukamoto Norihisa, dans une conférence de presse à Jakarta, a déclaré mardi « Le spectacle théâtral Mahabharata implique la coopération internationale. » Il vise à promouvoir les échanges culturels entre le Japon et l'Indonésie. Ils ont joué à Yogyakarta. Maintenant, ils sont performance à Jakarta mercredi et jeudi. Sukamoto espère que le spectacle attirera l'attention des gens indonésiens. Cependant, le directeur du spectacle, Hiroshi Koike, a expliqué que le spectacle met l'accent sur le mouvement, la musique et la langue comme une harmonie. Mahabharata partie 4 sera effectuée en Thaïlande l'année prochaine. Mahabharata la grande partie 1 sera effectuée en 2018 en Malaisie et Mahabharata la grande partie 2 sera réalisée en Inde en 2019 et s'est terminée par Mahabharata dans son ensemble en 2020 en coïncidant avec l'Olympiade à Tokyo. Par la suite, elle sera réalisée dans le monde. Le gouvernement de l'Indonésie et la Malaisie sont en train de finaliser la technique du projet de protocole d'entente de main d'œuvre qui a déjà été décrit dans la lettre d'intention le 3 septembre à Putrajaya en Malaisie. Le fonctionnaire consulaire de l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, Yusron Bahauddin Ambari, le mercredi 27 septembre a déclaré que le gouvernement indonésien attend l'achèvement de la révision des lois régissant le placement et la protection des travailleurs indonésiens à l'étranger avant de signer de l'accord. Toujours en discussion, il n'est pas encore définitif parce que la Malaisie veut un système, nous voulons un autre système. Nous ne voulons pas le protocole d'entente ne fournira pas une protection maximale à notre main-d'œuvre. Pourquoi nous ne signons pas encore le mémorandum d'accord? Parce que le gouvernement est actuellement en entente de l'achèvement de la révision de la loi numéro 39 sur le placement et la protection des travailleurs indonésiens à l'étranger. Ainsi, la direction du ministre des Affaires étrangères est de ne pas signer tout protocole d'accord sur la main-d'œuvre avec un pays jusqu'à la loi est finie. Selon Yusron, outre d'attendre la révision de la loi, le gouvernement d'Indonésie a aussi discuté la fonction du représentant des affaires étrangères qui protège et aide la main d'œuvre indonésienne en Malaisie. Ce qui est encore en discussion est l'utilisation du représentant des affaires étrangères. C'est lui qui doit faire la défense, la protection au cours des citoyens par l'ambassade d'Indonésie. Yusron a souhaité que le protocole d'entente sera immédiatement inauguré car il offre de nombreux avantages pour les travailleurs migrants indonésiens en Malaisie dans les fonctions de surveillance et de protection. Selon la lettre d'attention, la réalisation d'un protocole d'entente devrait être terminé avant la fin 2016. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Dans le cadre de promouvoir les produits et les artisanats de la ville de Bandung, l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur et le gouvernement de la ville de Bandung ont plan d'ouvrir Bandung Petit Magasin à Kuala Lumpur en Malaisie en octobre prochain. Selon l'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, Fajrini Puntodewi, Bandung Petit Magasin sera ouvert le 4 octobre. L'ambassadeur de la Malaisie, Datuk Bandar, et le maire de Bandung, Ridwan Kamil, vont inaugurer ce petit magasin. Nous allons ouvrir le magasin à Paradise Mall pour les produits de la ville de Bandung. Nous appelons Bandung Petit Magasin. Il sera ouvert le 4 octobre par le maire, Datuk Bandar et l'ambassadeur. Selon Fajrini, précédemment, la promotion des produits de Bandung a effectué via Little Bandung Mobile à la fin de l'an 2015. Dans la promotion maintenant, Fajrini a estimé que les produits alimentaires de la mode de Bandung vont devenir l'élément principal pour le peuple malais et les touristes mondiaux. En fait, Bandung est l'avant-garde de la mode. Il pourrait faire une tendance, notamment pour la mode musulmane. Y compris la nourriture, il y a des aliments qui sont uniques et distinctifs. Bien que cela soit prévu pour 18 mois, nous espérons qu'il puisse être attendu. Espérons qu'il y aura d'autres régions et nous espérons faire des maisons de magasins indonésiens. Fajrini souhaite que dans les autres occasions, les autres villes en Indonésie fassent la promotion similaire, pas seulement une ou deux villes. Toutes les villes sont capables de promouvoir leurs produits par la maison de magasins indonésiens. Le président indonésien Joko Widodo a averti que le développement d'un marque international pour l'amélioration de l'image de l'Indonésie dans le monde n'est pas seulement la création de logos, slogans ou taglines, mais doit venir à la réalité dans la vie quotidienne. Comme affirmé Joko Widodo, lors de l'ouverture de la réunion limitée du cabinet au bureau présidentiel mardi, le président a appelé à corriger ensemble l'égocentrisme dans le développement de l'image de marque nationale. Il a également demandé que la puissance douce de cette nation soit renforcée, l'intensification de la diplomatie culturelle, l'amélioration de la reconnaissance culinaire et aussi la promotion des activités sportives. Selon lui, une image positive doit être maintenue en fournissant un bon service rapide et professionnel. Le président a déclaré que la construction de marques nationales était développée, réalisée et maintenir l'image, les perspectives positives, avec un bon service rapide et professionnel. Le ministère indonésien du tourisme, en coopération avec l'ambassade d'Indonésie à Moscou, participe au 22e Forum international du tourisme en Russie au centre d'exposition à Moscou pour célébrer les vacances d'hiver 2016. Selon la déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Moscou reçue par Antara mardi, le ministère indonésien du tourisme invite 7 entreprises indonésiennes engagés dans le secteur du tourisme à participer au forum international. L'ambassadeur d'Indonésie à la Russie et au Belarus, M. Wahid Supriyadi, lors de sa visite au pavillon Wonderful Indonesia, a salué la participation de l'industrie touristique indonésienne dans ce forum international du tourisme. L'ambassadeur Wahid est optimiste que le nombre de visites des citoyens russes à l'Indonésie dans l'hiver de cette année va augmenter. Le directeur exécutif du Conseil d'affaires russo-indonésien, Mikhail Karusin, a déclaré « L'Indonésie a exempté un visa de visite pour les citoyens russes et il est très facile pour les citoyens russes qui voulaient visiter l'Indonésie, surtout en hiver. » C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Message de pays de la Colombie ». La Colombie entre une nouvelle phase dans la vie de la nation. Après un long processus de négociation depuis 4 ans, le lundi soir 26 septembre, le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des forces armées révolutionnaires de Colombie, Rodrigo Londono, mieux connu comme Timoleon Jiménez, ont signé un accord de paix dans la ville Cartagena, en Colombie. Les deux hommes, qui avaient été hostiles, ont serré les mains et souri à l'invitation internationale. Ainsi, le dernier épisode de conflit dans l'hémisphère au sud des Amériques est fini. En plus d'accord pour mettre fin au conflit, les FARC ont également présenté des excuses devant le public pour les nombreuses vies perdues pendant les 57 années de conflit. Timochenko, en tant que leader de FARC, dans son discours a exprimé l'intention de réconciliation et consolidation de la paix. Il a aussi demandé pour le désarmement et rester loin de la violence armée. Il a également été confirmé par le président Juan Manuel Santos, a aussi confirmé aux membres de FARC de retourner à la communauté après avoir mis l'armée. Santos a ajouté d'échanger des balles avec le son et d'échanger des armes avec l'idée de développement. Une fois réconciliés, les FAR ne sont plus un militant armé, mais aussi devient un parti politique de Timochenko, devient le nouveau chef du parti. Le conflit en Colombie a commencé lorsque les troupes gouvernementales ont réprimé la résistance des agriculteurs. Après l'incident de 1964, les FARC ont commencé une guerre de guérilla contre le gouvernement. Cet événement important dans l'histoire de la Colombie était assisté par environ 2500 invités. Ceux qui étaient présents à l'événement, entre autres, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, en outre, certains dirigeants de pays d'Amérique latine étaient également présents, y compris le président cubain Raúl Castro. Le Cuba joue un rôle important dans la réalisation de l'accord de paix. La dernière négociation était tenue depuis Juan Manuel Santos a été réélu en tant que président en 2014. Un rendez-vous de Santos et la recherche de paix avec les FARC. La négociation entre le gouvernement et les FARC était menée par la médiation de Cuba. Le président de la délégation de la Colombie, Humberto de la Chale, et les FARC, Ivan Marquez, ont signé l'accord à la Havana, Cuba, le mercredi 24 septembre et annoncé directement par la télévision. En vertu de cet accord, les FARC étaient prêts à déposer les armes à l'intégrer dans la communauté. Nous félicitons de l'accord de paix entre le gouvernement de la Colombie et les rebelles des FARC. La paix en Colombie crée un équilibre dans la religion latino-américaine. L'Indonésie peut jouer un rôle comme celui de Cuba pour résoudre les conflits qui se posent dans la région. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Sixième lantenne, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec la journée du train. Après avoir proclamé l'indépendance de l'Indonésie, le 17 août 1945, les employés qui ont incorporé dans les jeunes générations de train ont pris en charge des chemins de fer japonais. L'événement historique qui a eu lieu le 28 septembre 1945, à savoir un certain nombre de membres des jeunes générations du train ont lu les déclarations qui ont confirmé que l'autorité ferroviaire serait traitée par l'Indonésie à partir du 28 septembre 1945. Les Japonais ne sont plus autorisés à intervenir les affaires des chemins de fer en Indonésie. Voilà pourquoi nous célébrons la journée de train le 28 septembre et la création du département indonésien des chemins de fer. Le prochain événement est le président égyptien Gamal Abdel Nasser est décédé le 28 septembre 1970. Gamal Abdel Nasser, né le 15 janvier 1918 à Alexandrie, est mort le 28 septembre 1970 au Caire, est un homme d'État égyptien. Il est le second président de la République d'Égypte de 1956 à sa mort et devenir l'un des hommes d'État arabes les plus importants dans l'histoire. Nasser a pris part à la première guerre entre l'Arabe contre le sioniste en 1948. Dessous par la monarchie et souhaitant réformer la société égyptienne, Nasser fonde le mouvement des officiers libres qui renverse le roi Farouk en 1952. après une lutte de pouvoir contre ses anciens associés, dont le président Mohamed Najib, il prend le contrôle du gouvernement. Un référendum en 1956 permet l'adoption d'une nouvelle constitution, la première de l'ère républicaine et l'accession de Nasser à la présidence. Nasser réplique en nationalisant la compagnie du canal de Suez en 1956. Le Royaume-Uni, la France et l'Israël organisent une offensive pour reprendre le contrôle du canal, mais sont contraints de se replier sous la pression conjointe des États-Unis et de l'Union soviétique. La défaite de l'Égypte dans la guerre contre l'Israël en 1967 est un échec majeur pour Abdel Nasser. 3 ans plus tard, il est mort. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la Journée internationale du droit d'accès à l'information. Le 28 septembre 2002, l'Organisation de la liberté de l'information provenant de divers pays du monde entier se sont rencontrées à Sofia, en Bulgarie, et a créé un réseau de plaidoyeurs de la liberté d'information appelé la liberté d'information des avocats et ont convenu de coopérer dans la promotion des droits des individus, d'avoir accès à l'information et la transparence du gouvernement. Le groupe de liberté d'information a également proposé le 28 septembre d'être la journée internationale du droit d'accès à l'information comme un symbole mondial du mouvement pour promouvoir le droit d'accès à l'information. En commémoration de cette journée, les activistes de l'information dans tout le monde promeuvent les droits fondamentaux et font la campagne que les gens choisissent la France et sont en mesure de participer au gouvernement. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis lointains, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement ayant pour le titre « La biomasse de la mer indonésienne augmente ». La ministre indonésienne de la mer et de la pêche, Susi Pujastuti, a affirmé que la biomasse marine de l'Indonésie augmente rapidement, de sorte que le nombre de diverses espèces de poissons dans la mer augmente également de plus en plus en raison du succès de l'éradication de l'atténuation de la pêche illégale dans les eaux indonésiennes. La ministre Susi Pujastuti a déclaré jeudi au bureau du ministère de la Mer et de la Pêche que la technologie de l'imagerie satellitaire à cette époque était extraordinaire pour qu'on puisse connaître le niveau de la fertilité de la mer dans les eaux partout dans le monde. Elle a affirmé que ces politiques de réforme du secteur de la pêche annoncées et menées avaient fait un certain nombre de stocks de poissons dans les eaux nationales augmenter. Une étude récente de la Commission nationale pour l'évaluation des ressources halieutiques dans les 11 régions de la gestion des pêches de la République de l'Indonésie montre l'augmentation des stocks de poissons de 6,5 millions de tonnes en 2011 à 9,9 millions de tonnes à l'heure actuelle. Auparavant, le directeur général de l'aquaculture du ministère de la Mer et de la Pêche, Slamet Subiakto, a déclaré que l'éradication de la pêche illégale dans les eaux indonésiennes a également affecté l'augmentation de la production nationale de farine de poisson. Il rend les importations de farine de poisson ont diminué. Selon Slamet Subiakto, si cela se poursuit lentement mais sûrement, la farine de poisson nationale sera utilisée plus largement par l'industrie des aliments pour les poissons. En outre, pour augmenter les revenus des éleveurs de poissons, en particulier ceux des poissons d'eau douce, on doit faire également une percée dans la fourniture d'aliments de poissons. Pour répondre à ces défis, le ministère de la mer et de la pêche a lancé le mouvement indépendant des aliments de poisson. Slamet Subiakto a expliqué que le mouvement indépendant des aliments de poisson encouragerait la formation du groupe indépendant des aliments de poisson qui est séparé du groupe d'éleveurs de poisson. Le ministère de la mer et de la pêche va encourager ce groupe à travers le mouvement indépendant des aliments de poisson pour produire des aliments de poisson à la bonne qualité en conformité avec la norme nationale indonésienne SNI en quantité suffisante pour répondre aux besoins chez la communauté. Le ministère, par l'intermédiaire du mouvement indépendant des aliments de poisson, encourage l'existence du groupe de fournisseurs d'outils de matières premières et également le groupe de marketing d'alimentation des poissons indépendamment. De là, il va créer un effet domino dans l'absorption de l'emploi et aussi augmenter la prospérité du peuple. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir.
Le directeur adjoint du British Council en Indonésie, Ian Robinson, en marge du 48e concours de travail scientifique des jeunes à l'Institut indonésien des sciences ou LIPI à Jakarta, a déclaré que le soutien de LIPI pour le développement de la culture de la recherche en Indonésie était très encourageant. Il a dit que LIPI a examiné la possibilité comme le potentiel pour les jeunes chercheurs d'être des chercheurs qui se développent et peuvent rivaliser au monde international. Il est un grand plaisir pour moi de voir le partenariat du British Council avec l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, pour soutenir les initiatives étonnantes des jeunes chercheurs. Et l'Indonésie a vu cela comme un besoin d'être en mesure de rivaliser dans une économie mondiale pour améliorer les compétences des travailleurs, y compris les chercheurs qui peuvent concurrencer efficacement et collaborer au niveau international. Par ailleurs, Ian Robinson a également déclaré que le partenariat bilatéral du LIPI et le British Council Indonesia dans le soutien du développement de la recherche culturelle avait fait pendant 2 ans. Il a dit que la jeune génération avait un potentiel de développer la science et la technologie pour leur pays. Les artistes de 6 pays effectuent un spectacle théâtral baptisé Mahabharata partie 3, La guerre Kurusetra, le 28 septembre et 29 à Taman Ismail Marzuki, Jakarta, réalisé par un directeur japonais Hiroshi Koiki. Les artistes du Japon, des Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et la Cambodge sont performants en Indonésie. Le spectacle théâtral est organisé par Hiroshi Koike Bridge Project en collaboration avec la Fondation du Japon, le Conseil des Arts de Jakarta et Théâtre Garasi. Le directeur général de la Fondation du Japon en Indonésie, Sukamoto Norihisa, dans une conférence de presse à Jakarta, a déclaré mardi « Le spectacle théâtral Mahabharata implique la coopération internationale. » Il vise à promouvoir les échanges culturels entre le Japon et l'Indonésie. Ils ont joué à Yogyakarta. Maintenant, ils sont performants à Jakarta, mercredi et jeudi. Sukamoto espère que le spectacle attirera l'attention des gens indonésiens. Cependant, le directeur du spectacle, Hiroshi Koike, a expliqué que le spectacle met l'accent sur le mouvement, la musique et la langue comme une harmonie. Mahabharata partie 4 sera effectuée en Thaïlande l'année prochaine. Mahabharata la grande partie 1 sera effectuée en 2018 en Malaisie et Mahabharata la grande partie 2 sera réalisée en Inde en 2019 et s'est terminée par Mahabharata dans son ensemble en 2020 en coïncidant avec l'Olympiade à Tokyo. Par la suite, elle sera réalisée dans le monde. Les gouvernements de l'Indonésie et la Malaisie sont en train de finaliser la technique du projet de protocole d'entente Domaine d'offre qui a déjà été décrit dans la lettre d'intention le 3 septembre à Putrajaya en Malaisie. Le fonctionnaire consulaire de l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, Yusron Bahauddin Ambari, le mercredi 27 septembre a déclaré que le gouvernement indonésien attend l'achèvement de la révision des lois régissant le placement et la protection des travailleurs indonésiens à l'étranger avant de signer de l'accord. Toujours en discussion, il n'est pas encore définitif parce que la Malaisie veut un système, nous voulons un autre système. Nous ne voulons pas le protocole d'entente ne fournira pas une protection maximale à notre main d'œuvre. Pourquoi nous ne signons pas encore le mémorandum d'accord? Parce que le gouvernement est actuellement en entente de l'achèvement de la révision de la loi numéro 39 sur le placement et la protection des travailleurs indonésiens à l'étranger. Ainsi, la direction du ministre des Affaires étrangères est de ne pas signer tout protocole d'accord sur la main d'œuvre avec un pays jusqu'à la loi est finie. Selon Yusron, outre d'attendre la révision de la loi, le gouvernement d'Indonésie a aussi discuté la fonction du représentant des affaires étrangères qui protège et aide la main d'œuvre indonésien en Malaisie. Ce qui est encore en discussion est l'utilisation de représentants des affaires étrangères. C'est lui qui doit faire la défense, la protection au cours des citoyens par l'ambassade d'Indonésie. Yusron a souhaité que le protocole d'entente sera immédiatement inauguré car il offre de nombreux avantages pour les travailleurs migrants indonésiens en Malaisie dans les fonctions de surveillance et de protection. Selon la lettre d'attention, la réalisation d'un protocole d'entente devrait être terminée avant la fin 2016. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Dans le cadre de promouvoir les produits et les artisanats de la ville de Bandung, l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur et le gouvernement de la ville de Bandung ont plan d'ouvrir Bandung Petit Magasin à Kuala Lumpur en Malaisie en octobre prochain. Selon l'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, Fajrini Puntodewi, Bandung Petit Magasin sera ouvert le 4 octobre. L'ambassadeur de la Malaisie, Datuk Bandar, et le maire de Bandung, Ridwan Kamil, vont inaugurer ce petit magasin. Nous allons ouvrir le magasin à Paradise Mall pour les produits de la ville de Bandung. Nous appelons Bandung Petit Magasin. Il sera ouvert le 4 octobre par le maire, Datuk Bandar et l'ambassadeur. Selon Fajrini, précédemment, la promotion des produits de Bandung a effectué via Little Bandung Mobile à la fin de l'an 2015. Dans la promotion maintenant, Fajrini a estimé que les produits alimentaires de la mode de Bandung vont devenir l'élément principal pour le peuple malais et les touristes mondiaux. En fait, Bandung est l'avant-garde de la mode. Il pourrait faire une tendance, notamment pour la mode musulmane. Y compris la nourriture, il y a des aliments qui sont uniques et distinctifs. Bien que cela soit prévu pour 18 mois, nous espérons qu'il puisse être attendu. Espérons qu'il y aura d'autres régions et nous espérons faire de maisons de magasins indonésiens. Fajrini souhaite que dans les autres occasions, les autres villes en Indonésie fassent la promotion similaire. Pas seulement une ou deux villes, toutes les villes sont capables de promouvoir leurs produits par la maison de magasins indonésiens. Le président indonésien Joko Widodo a averti que le développement d'un marque international pour l'amélioration de l'image de l'Indonésie dans le monde n'est pas seulement la création de logos, slogans ou taglines, mais doit venir à la réalité dans la vie quotidienne. Comme affirmé Joko Widodo lors de l'ouverture de la réunion limitée du cabinet au bureau présidentiel mardi, le président a appelé à corriger ensemble l'égocentrisme dans le développement de l'image de marque nationale. Il a également demandé que la puissance douce de cette nation soit renforcée, l'intensification de la diplomatie culturelle, l'amélioration de la reconnaissance culinaire et aussi la promotion des activités sportives. Selon lui, une image positive doit être maintenue en fournissant un bon service rapide et professionnel. Le président a déclaré que la construction de marques nationales était développée, réalisée et maintenir l'image des perspectives positives avec un bon service rapide et professionnel. Le ministère indonésien du tourisme, en coopération avec l'ambassade d'Indonésie à Moscou, participe au 22e Forum international du tourisme en Russie au centre d'exposition à Moscou pour célébrer les vacances d'hiver 2016. Selon la déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Moscou reçue par Antara mardi, le ministère indonésien du tourisme invite 7 entreprises indonésiennes engagées dans le secteur du tourisme à participer au forum international. L'ambassadeur d'Indonésie à la Russie et au Belarus, M. Wahid Supriyadi, lors de sa visite au pavillon Wonderful Indonesia, a salué la participation de l'industrie touristique indonésienne dans ce forum international du tourisme. L'ambassadeur Wahid est optimiste que le nombre de visites des citoyens russes à l'Indonésie dans l'hiver de cette année va augmenter. Le directeur exécutif du Conseil d'affaires russo-indonésien, Mikhail Karusin, a déclaré « L'Indonésie a exempté un visa de visite pour les citoyens russes et il est très facile pour les citoyens russes qui voulaient visiter l'Indonésie, surtout en hiver. » C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour l'heure suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Rencontrons-nous à nouveau dans notre magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Padang en province de l'ouest de Sumatra. Alors, restez avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de Radio République Indonésia. Outre les zones courtes, vous pouvez aussi écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, les délices culinaires de la province de l'Ouest de Sumatra ont été reconnus par le monde. En septembre 2011, l'enquête de CNN met l'un des aliments de l'Ouest de Sumatra, rendang, comme la nourriture la plus délicieuse dans le monde. Outre rendang, il y a encore de nombreux aliments typiques et délicieux de la province de Sumatra Ouest, ainsi que des boissons traditionnelles comme le thé talua. Le thé talua est la boisson typique de l'ouest de Sumatra qui est très légendaire. Cette boisson devient le menu légendaire aux étals traditionnels ou au restaurant à Padang. Padang est la capitale de l'ouest de Sumatra, mais il est assez difficile de trouver le thé talua à l'extérieur de Sumatra Ouest. Beaucoup de gens aiment cette boisson. Dans le passé, selon la population locale, cette boisson était faite seulement pour la noblesse. Maintenant, toutes les communautés peuvent profiter d'un thé talua. Le thé talua est censé avoir de nombreux avantages pour le corps. Ces avantages sont entre autres d'améliorer l'endurance et l'énergie, pour restaurer la vitalité du corps et de retarder la faim, et d'être bon pour la santé des joues. Ces avantages sont à partir du contenu de la composition ou les ingrédients pour faire du thé talois. Les ingrédients pour faire du thé talois sont le thé, le sucre, la jaune d'œuf de poule, le lait concentré sucré et le citron vert. C'est assez facile pour faire du thé talois. La première, remuer la jaune d'œuf et le sucre dans un verre pendant 15 minutes jusqu'à ce que la pâte est épaisse et à la couleur blanche brunâtre. Après cela, versez le thé chaud dans le verre, puis le lait condensé sucré. Lorsque la boisson a déjà terminé, il y a trois couches dans la boisson. Sur la base de verre est la couleur blanche, qui est le lait condensé sucré. Le deuxième niveau est une couleur brune de l'eau du thé, tandis qu'au sommet, il est mousse blanche. En bref, cette boisson est comme cappuccino, la boisson typique de l'Italie. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le thé talois ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien. Ce soir, nous allons présenter Pasar Ikan. Je répète, Pasar Ikan. Ou en français, le marché aux poissons. Je vais introduire des vocabulaires et des expressions par rapport au thème aujourd'hui. C'est pasar ikan ou le marché aux poissons. Je vais prononcer chaque mot deux fois. Pasar ikan. Pasar ikan. En français, le marché aux poissons. Selamat pagi. Selamat pagi. En français, bonjour. Bagaimana? Bagaimana? En français, comment? Kabar. Kabar. En français, nouvelle. Kamu. Kamu. En français, vous. Ou tu. Hari ini. Hari ini. En français, aujourd'hui. Sangat baik. Sangat baik. En français, très bon. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Membeli apa? Membeli apa? En français, acheter quoi? Ikan kakap. Ikan kakap. En français, le vivano. Ikan dori. Ikan dori. En français, poisson dori. Cumi. Cumi. En français, le calamar. Kerang hijau. Kerang hijau. En français, la moule verte. Udang. Udang. En français, la crevette. Kepiting. Kepiting. En français, le crabe. Nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. En français, le riz frit aux fruits de mer. Memasak. Memasak. en français, cuisinier. Chers amis, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et les expressions dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Nina A et Lucy B au bureau. A. Selamat pagi, Lucy. Selamat pagi, Lucy. En français, bonjour, Lucy. B. Selamat pagi, Nina. Selamat pagi, Nina. En français, bonjour, Nina. A. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? En français, comment allez-vous? B. Sangat baik. Bagaimana denganmu? Sangat baik. Bagaimana denganmu? En français, très bien. Et toi? A. Saya baik. Terima kasih. Saya baik. Terima kasih. En français, je vais bien. Merci. B. Apa rencana kamu hari ini? Apa rencana kamu hari ini? En français, quel est ton plan aujourd'hui? A. Saya ingin ke pasar ikan Muara Karang. Saya ingin ke pasar ikan Muara Karang. En français, je veux aller au marché aux poissons de Muara Karang. B. Kamu ingin membeli apa? Kamu ingin membeli apa? En français, vous voulez acheter quoi? Membeli ikan kakap, ikan dori, cumi, kerang, udang, dan kepiting. Membeli ikan kakap, ikan dori, cumi, kerang, udang, dan kepiting. En français, acheter le vivano, le poisson dori, le calamar, les moules, les crevettes, et le crabe. Aku ingin membuat nasi goreng seafood. Aku ingin membuat nasi goreng seafood. En français, je veux cuisiner le riz frit aux fruits de mer. Voilà cette édition de Apprendre l'Indonésien de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique édition de mercredi. Pour ce soir, on vous présente la chanson nostalgique avec le chanteur Chris Biantoro. Chers amis, écoutez toujours notre émission sur 9525 kHz, selon en courte bien sûr, et le streaming www.voi.co.id. Pour commencer notre rencontre, écoutez donc la première chanson de Chris Biantoro.
Di lembah yang berlumpur dan berlumpur Dimanakah kini engkau berada? Mengapa, oh mengapa? Aku tak percaya. Dulu pernah aku mengagumimu. Sekarang pun tetap mengharap. Mengapa, oh mengapa, tak perlu bertanya. Andaikan mungkin ingin daku mengajak kau kembali seperti saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya. Saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa, oh mengapa, aku tak percaya.
Sarzami, vous avez écouté la chanson de Chris Biantoro. Et vous savez, Chris Biantoro est très connu avec la profonde voix de baryton. Les chansons, c'est-à-dire ces chansons sont très très... Les chansons sont très très... C'est doux ou bien attendu dans, pour les oreilles. Et vous avez beaucoup de chansons de lui qui sont devenues hits dans les années 60. Et vous avez aussi chaque station de radio tourné ses chansons. Son nom est de plus en plus populaire lorsque Chris Biantoro est devenu maître de cérémonie au programme télévisé, ainsi que les présentateurs de l'émission de télévision. À cette époque, l'Indonésie ne dispose qu'une émission de télévision, c'est-à-dire la télévision nationale, TVRI. Bon, chers amis, écoutez donc l'autre chanson de Chris Biantoro.
Musique.
bintang-bintang timur sedang mengembang, tak jemu-jemu mata memandang. Aku namakan di kau juta malam, sinar matamu menari-nari langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan tuan? Juwita malam, dari bulankah tuan kereta kita segera tiba? Di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Gerangan tuan, juwita malam, dari bulankah tuan kereta kita segera tiba? Di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula.
Chers auditeurs et chers auditeurs, c'est notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter, Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.